22h, vous êtes bien sur Europe 1. Tout de suite, le journal Victor Dolande.
Le port du masque, si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se balader, vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, le port du masque, moi je le recommande.
228 foyers épidémiques encore actifs dans tout le pays. Le gouvernement recommande pour la première fois le masque dans l'espace public, y compris en extérieur. Symbole du combat des femmes victimes de violences conjugales, Jacqueline Sauvage est décédée à son domicile. L'actrice Muriel Robin, qui incarna la vie de Jacqueline Sauvage dans un téléfilm, aimerait surtout qu'on retienne la leçon de souffrance de cette femme.
Les Jacqueline Sauvage, il y en a plein en France. Et on ne le fait pas assez pour elle. Je le dis à Jacqueline, sa souffrance n'aura pas servi à rien et qu'on continuera de se battre.
Dans ce journal, vous entendrez également la réaction du père de Cédric Chouviat, ce livreur mort asphyxié lors d'un simple contrôle routier. Il est scandalisé après les propos de Gérald Darmanin. Des fruits et légumes made in France toujours plus chers. L'INSEE chiffre la hausse à 15% pour le seul mois de juin. La première cause de mortalité chez les moins de 25 ans reste la noyade. Opération prévention cet après-midi sur les plages du Var.
Depuis le mois de juin, on est à 61 noyades contre 60 l'année dernière sur la saison estivale complète. Donc on se devait d'être présent sur les plages.
La bourse de Paris clôture en légère hausse ce soir de 0,6% à 4 958 points. Météo complète à la fin du journal avec Valérie Darmon. Et puis, comme chaque soir cet été, on vous proposera un peu de lecture avec les conseils de Stéphane Place. Et puis, on essaiera de trouver l'inspiration avec la bonne idée de Thierry Dagiral.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Porter un masque, y compris dans la rue, voici la nouvelle recommandation du gouvernement. Attention, c'est une recommandation, pas une obligation. En déplacement aujourd'hui dans les Yvelines, le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'envisage pour la première fois. Pour le dernier conseil des ministres avant la pause estivale, ce matin à l'Élysée, ce n'était pas vraiment l'ambiance d'un dernier conseil avant les vacances. Non, Adrien Beck, un gouvernement qui n'a pas d'autre choix que de s'afficher mobilisé contre l'épidémie.
Oui, un gouvernement qui reste sur le qui-vive, c'est toujours la formule consacrée. Mais c'est vrai que cette année, elle prend un autre sens. Car si la politique s'arrête avec l'été, il n'en est pas du tout de même pour la crise sanitaire, a dit le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Il n'y a pas de trêve pour l'épidémie et pour le virus. Et donc il y a une mobilisation absolue. Il y a un état de veille et de vigilance permanente.
En clair, le gouvernement est prêt à se réunir physiquement ou à distance pour de possibles conseils de défense pour annoncer de nouvelles mesures contre le virus. Et dès cet après-midi, vous l'avez dit, depuis les Yvelines, et sans que ce soit coercitif, Olivier Véran a recommandé le port du masque à l'extérieur.
Si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se balader, vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, le port du masque, moi je le recommande.
Et à propos de masque, selon nos informations, le gouvernement envisage de le rendre obligatoire dans le Nord qui jouxte la Belgique, là où l'épidémie rebondit. Et puis, autre mesure envisagée, une possible réquisition des laboratoires d'analyse franciliens qui ne font pas de dépistage et qui sont dans le collimateur du ministre de la Santé.
Merci Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Faisons justement un point sur la situation de l'épidémie en France. Qu'est-ce qui pousse le gouvernement à renforcer ses mesures ? Depuis plusieurs semaines, Pauline Jacquot, les signes d'une reprise se multiplient.
Oui, d'abord le nombre de foyers épidémiques. 228 sont aujourd'hui actifs un peu partout en France. À Quiberon, par exemple, l'ARS vient d'annoncer que le nombre de malades a doublé. 72 personnes sont touchées et il y a un fort potentiel de transmission. Progression du virus aussi en Loire-Atlantique, en Gironde, en Mayenne. C'est maintenant qu'il y a un risque, selon Christine Rouzioux, virologue à l'hôpital Necker.
Les points de redémarrage de l'extension du virus, c'est dans des lieux de vacances. Les gens sont plutôt à l'extérieur, dans les rues piétonnes, dans les marchés ouverts. Il y a presque un nouveau risque, en quelque sorte, dans la mesure où il y a beaucoup plus de jeunes maintenant qui sont infectés. Or, les jeunes sont plus souvent asymptomatiques. Donc le risque est encore plus masqué, si je puis dire, que précédemment.
Le virus circule parce que nous circulons cet été et il est présent en ce moment, rappelle-t-elle, partout en France.
Merci Pauline Jacquot. Et pour être tout à fait complet sur la situation, sachez que le coronavirus a fait 15 morts de plus en 24 heures en France, ce qui porte le nombre total de décès à 30 238 depuis début mars. Elle était devenue le symbole du combat des femmes victimes de violences conjugales. Jacqueline Sauvage est décédée à l'âge de 72 ans. Condamnée à 10 années de prison pour avoir tué de 3 coups de fusil son mari qui l'a frappée depuis 47 ans. Après 4 années passées derrière les barreaux, elle fut graciée par le président Hollande en 2016. François Hollande qui se dit ce soir très ému, mais ajoute « Jacqueline Sauvage est décédée chez elle et non pas en prison où elle n'avait pas sa place ». Sur Europe 1, l'actrice Muriel Robin qui incarna Jacqueline Sauvage à l'écran dans un téléfilm qui fut regardé par plus de 8 millions de téléspectateurs sur TF1, souhaite avant tout qu'on retienne la leçon de la souffrance de Jacqueline Sauvage.
Jacqueline Sauvage est devenue un peu le porte-drapeau des violences conjugales, avec quelque chose vraiment, son dossier a pu faire bouger les choses. La question qu'il faut se poser, c'est que ce soit Égérie, malgré elle, ou un vrai combat comme celui de Gisèle Halimi, qui prendra le relais. En tout cas, sa souffrance n'aura pas servi à rien. En revanche, la souffrance de beaucoup d'autres, de ses victimes, par exemple, qui sont plus de 300 par an, l'alerte va servir à grand-chose. En tout cas, il n'a pas l'air d'être entendu. Les Jacqueline Sauvage, il y en a plein en France et dans le monde, il y en a plein et on ne le fait pas assez pour elle. On demande 1 milliard, on ne nous le donne pas, on sort des milliards pour Renault, pour ceci, pour cela. Là, ce sont des vies, des cadavres. Qui les aura sur la conscience? On vit très mal. Et donc, on a avancé avec Jacqueline Sauvage, parce que le sujet est Jacqueline Sauvage, mais on recule avec d'autres choses. C'est très, très dur. Donc, je vais continuer à me battre, et je ne le dis pas pour parler de moi, mais je le dis à Jacqueline et à ses enfants et à ses filles et ses petits-enfants que sa souffrance n'aura pas servi à rien et que là, en plus, pour tout ça, pour mourir 3 ans après avoir connu la paix ou très peu de temps après, on continuera de se battre. Mais malheureusement, il y en a encore beaucoup, 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 beaucoup besoin.
Muriel Robin était en direct dans le journal de 12h30. Les obsèques de Gisèle Halimi seront célébrées le 6 août prochain au cimetière du Père Lachaise à Paris. L'avocate et figure féministe est décédée hier à l'âge de 93 ans. Du côté du gouvernement, des discussions sont en cours pour organiser un hommage national à la rentrée. Et puis, on l'a appris ce soir, la justice française a accepté de libérer sous surveillance électronique Josu Ternera, une figure de l'ETA, l'ancienne organisation séparatiste basque. Il a été incarcéré en France depuis son interpellation en mai 2019.
Europe 1, le journal de la nuit.
Le père de Cédric Chouviat est indigné et crie sa colère sur Europe 1. Christian Chouviat n'a en effet pas du tout goûté le terme employé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin hier devant les députés de la commission des lois. « Quand j'entends le mot « violence policière », j'étouffe », avait lâché le ministre. « J'étouffe », ces mots, ce furent justement les derniers de Cédric Chouviat, ce chauffeur-livreur mort asphyxié lors d'un simple contrôle routier. Écoutez la réaction de son père.
« J'étouffe. Comment on peut sortir ça de sa bouche quand on est le premier flic de France? Mais c'est scandaleux. On vit un drame, c'est qu'on puisse sortir des mots pareils à une famille qui est en deuil, qui est en pleine bataille juridique, contre 4 individus. Mon fils a 17 fois « j'étouffe » et lui dit qu'il en a marre qu'on attaque les violences policières. Et il dit « j'en étouffe », d'entendre ça. Il a blessé toute la famille, vous vous rendez compte? Non seulement il se permet de sortir des propos comme ça, mais il n'a toujours pas mis à pied les 4 individus. Mais franchement, c'est une révolte, j'ai de la révolte en moi là. Toute la famille, on est toujours dans notre tête, on est toujours le 3 janvier. Nous, on n'a rien oublié. On en remet à la justice. Depuis le début, je crie haut et fort que j'ai confiance en la justice. Comme je crie haut et fort, au nom de toute la famille, qu'on n'a rien contre la police, qu'on n'a rien contre les policiers. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de propos coléreux. Mais il faut tout simplement comprendre qu'on ne peut pas entendre des propos comme ça.
Christian Chouviat, joint pour Europe 1 par Sarah Calamand. Dans l'entourage de Gérald Darmanin, on affirme que dans ce j'étouffe, il n'y avait aucune arrière-pensée. Écoutez justement la défense du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à la sortie du Conseil des ministres ce matin.
Évidemment, ce terme n'a pas été employé en faisant référence à la situation de ce qui est arrivé à M. Chouviat. Évidemment, la question ne portait pas sur ce point-là et ça n'est évidemment pas lié à cette situation. Et c'est important de le dire et vous avez raison de poser la question puisque j'ai vu que des questions étaient posées, notamment par la famille. Mais je tiens à être clair sur ce point-là.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement au micro d'Adrien Beck. Vous avez dû le constater par vous-même ces derniers jours en faisant votre marché. L'INSEE le confirme, les prix des fruits et légumes ont bondi de 15% pour le seul mois de juin. Alors cette hausse s'explique notamment par les conséquences de l'épidémie, mais ce n'est pas la seule raison, Élise Dangean.
Oui, l'épidémie qui avait mis un gros coup d'arrêt aux importations de fruits et légumes d'abord, faisant automatiquement grimper les prix. Mais ça y est, dit Interfel, l'interprofession des fruits et légumes, le niveau des importations est complètement revenu à la normale. Sauf que tous les effets de la crise sanitaire ne sont pas encore derrière nous, explique son président Laurent Grandin, d'autant qu'ils sont cumulés aux effets climatiques.
On a eu à la fois des problèmes de main-d'œuvre, d'organisation des chantiers qui nécessitaient des distanciations encore aujourd'hui inhabituelles dans notre activité, mais aussi, notamment aux fruits de saison, une diminution assez nette des productions liées aux gelées.
Et même si les importations ont repris, nous sommes dans une période où traditionnellement, la majorité des fruits et légumes achetés au détail sont français, car nous sommes l'été autosuffisants. Et ça a un coût, comme l'a rappelé ce matin sur Europe Christiane Lambert, présidente de la FNSEA.
Fabriquer en France coûte plus cher. Tout le monde aujourd'hui parle d'achat local, de manger local. Nous avons des salaires plus élevés, des normes sanitaires plus élevées, des normes environnementales plus élevées. Donc ça représente une partie des surcoûts. C'est certainement aussi un problème de répartition de la marge, avec certainement des marges un peu trop gourmandes de la part de certains distributeurs.
Tous misent toutefois sur un retour à la normale imminent, avec déjà quelques produits au prix très attractif. Quelques exemples, la tomate, le melon ou encore la salade.
Merci Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Bonne nouvelle pour les bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire. Cette année, les familles recevront 100 euros de plus. C'était l'une des promesses du Premier ministre Jean Castex lors de son discours de politique générale. Cette allocation sera versée le 4 août à La Réunion et à Mayotte, puis le 18 août dans le reste de la France. Autre annonce du gouvernement, le chômage partiel dans le secteur du tourisme sera prolongé jusqu'au mois de décembre et non pas jusqu'en septembre comme c'était initialement prévu.
Europe 1, le journal de la nuit, Victor Dolande.
On vous en parle chaque été avec à chaque fois des drames. Je parle des noyades. Rappelons que la noyade est la première cause de mortalité chez les moins de 25 ans. On en dénombre près d'un millier chaque année dans notre pays. Le gouvernement lance une grande campagne de sensibilisation et durant toute la période estivale, les pompiers du département du Var se déploient sur les plages, initiant enfants et parents, non seulement au risque de noyade, mais surtout aux gestes qui peuvent sauver. Reportage à Sanary-sur-Mer du correspondant d'Europe 1 sur la Côte d'Azur, Frédéric Michel.
Ah ben on est là pour ça aujourd'hui, pour apprendre des petites astuces pour apprendre à nager.
Et avant de jouer dans l'eau et sur la plage, les enfants de ce centre aéré du Revest, près de Toulon, sont sensibilisés aux bons gestes.
C'est de rentrer dans l'eau progressivement, de se mouiller la nuque.
L'adjudant Aurélien Mikaelef assure les brevets de natation pour les sapeurs-pompiers du Var.
Tout à l'heure, on fera de l'immersion aussi, on ira chercher du sable au fond de l'eau. À chaque petit jeu, il y a un aspect pédagogique pour leur faire gagner de l'aisance aquatique. Le premier qui fait déborder la poubelle d'eau a gagné.
Donne le saut, Louis.
Plusieurs journées de sensibilisation seront organisées cet été sur les plages. L'adjudant Pierre-Élisée Bartoli de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Var.
Depuis le mois de juin, on est à 61 noyades contre 60 l'année dernière sur la saison estivale complète. Donc on se devait d'être présent sur les plages et en particulier chez les enfants. Que ça reste ludique, mais qu'ils apprennent à évoluer dans l'eau en toute sécurité.
Et les enfants sont aussi initiés aux gestes qui sauvent. En cas de noyade, chaque seconde est comptée. Il faut avoir les bons réflexes.
Est-ce qu'il y a un poste de secours sur cette plage?
Oui, il est là-bas. En plus, il y a écrit poste de secours.
Ça sert à aider.
Sanary, Frédéric Michel, Europe 1.
Les gendarmes de Gironde qui enquêtent sur les causes du premier gros feu de pinette de l'été qui a détruit 300 hectares sur la commune du Tuzan recoupent des témoignages. C'est peut-être un simple mégot de cigarette sur une terre particulièrement asséchée qui serait à l'origine du sinistre. Le rugby français est au bord de la crise de nerfs. L'annonce par le ministère des Sports d'une jauge dans les stades de 5000 personnes jusqu'à la fin du mois d'août a jeté un gros froid dans le monde de l'Ovalie. Le top 14 est au bord de la faillite. Une centaine de joueurs se retrouvent au chômage partiel. Les salaires pourraient baisser de 30%. Certains présidents de clubs redoutent carrément la mort du top 14. Car contrairement au football qui vit très largement grâce aux droits télé, les clubs de rugby, eux, malgré la manne de Canal+, restent très dépendants des entrées dans les stades, Cyril Delarmorinerie.
Exactement, le public, les loges, les salons VIP, c'est 60% des ressources des clubs de rugby. L'absence de match depuis 5 mois est un tsunami financier. Le chiffre de 120 millions d'euros de pertes est avancé. Il a donc fallu tailler dans les effectifs. Les stars comme Wilkinson ou Dan Carter, recrutés à coups de millions, c'est sans doute fini. On doit se serrer la ceinture. À vous, le président du Loup, le club de Lyon, Yann Roubert.
On a sans doute atteint un pic dans les rémunérations des joueurs et dans le niveau de vie du rugby professionnel français. Donc oui, il y a des baisses de salaire qui sont mises en place dans, je crois, l'énorme majorité des clubs. On a fait des efforts dans le recrutement, recruter moins de joueurs que ce qu'on aurait peut-être voulu ou pu faire en conditions normales.
Le rugby français qui avoue vivre au-dessus de ses moyens a pu s'en sortir grâce au chômage partiel et attend avec impatience la reprise de la saison le 4 septembre prochain avec le plus de spectateurs possible.
Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. En foot, 5 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés au FC Nantes. On ne sait pas si des joueurs figurent parmi les personnes contaminées. Les entraînements vont être aménagés dans les prochains jours pour éviter que le virus continue de se propager. Et le match de préparation prévu contre le club belge de Charleroi samedi prochain a d'ores et déjà été annulé. En Espagne, un joueur du FC Séville, lui aussi testé positif, jette un froid sur le club à une semaine du 8e de finale de la Ligue Europa contre l'AS Rome. Partons à présent à Bayonne avec une mauvaise nouvelle. Ce soir, malheureusement, vous n'entendrez pas ça dans les rues de la ville basque. Et oui, les fêtes de Bayonne devaient commencer ce soir. Cela aurait dû être pour 5 jours l'un des plus grands rendez-vous festifs du pays. Mais malheureusement, à cause de l'épidémie de coronavirus, ces fêtes sont annulées. Une triste première depuis 1932. Bayonne sans Peña, Bayonne sans Banda, Bayonne sans Foularouche, ce ne sera pas tout à fait Bayonne cet été. Et pourtant, le président du comité des fêtes, Henri Loquet, s'y résigne.
Ces 5 jours et ces 5 nuits de liesse sont un moment privilégié pour les Bayonnais et puis tous ceux qui viennent fréquenter notre ville. Alors il y a un certain nombre de mesures évidemment qui ont été prises et il appartiendra sous l'autorité du sous-préfet avec qui la ville a eu déjà beaucoup de réunions de faire respecter évidemment ces arrêtés municipaux qui ont été pris avec notamment la fermeture des cafés, des restaurants à 23h avec l'interdiction de musique amplifiée ou de musique vivante sur l'espace public. Et vous imaginez ce que ça coûte à tout Bayonnais, à tout Basque de ne pas pouvoir exprimer évidemment sa manière de faire la fête, mais bien évidemment ces mesures étaient indispensables.
Le président du comité des fêtes de Bayonne, Henri Loquet, au micro Europe 1 de Théo Manval. La bourse de Paris clôture en légère hausse ce soir de 0,6% à 4 958 points. Il est 22h17 sur Europe 1, l'heure de jeter un coup d'œil à la météo de demain.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
La météo avec vous Valérie Darmon. Et pour demain, Valérie, attention aux très fortes chaleurs. Météo France a placé en effet 6 départements en vigilance orange pour canicule.
Absolument. Ardèche, Drôme, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie avec des températures attendues demain après-midi de 34 à 38 en général, voire 39 degrés. La nuit de jeudi à vendredi qui sera chaude, voire plus chaude encore que la nuit prochaine, durant laquelle il fera déjà 22 degrés en vallée du Rhône et sur l'agglomération lyonnaise. Et il fera aussi dès demain dans le sud-ouest et dans les Charentes 40 degrés. 40 annoncés par Météo France à Angoulême, Mont-de-Marsan et Cahors, 39 à Périgueux, Auch, Bordeaux, Agen et Biarritz et enfin 38 à Lyon et Brive-la-Gaillarde. Ces températures qui devraient rester très élevées en journée de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche avant une amorce de rafraîchissement en journée de dimanche.
Merci Valérie Darmon. Europe 1. Dans un instant, un livre pour l'été avec Stéphane Place et la librairie Mola à Bordeaux. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit, Victor Dolande.
Depuis le début de l'été, Europe 1 s'associe avec la librairie Mola à Bordeaux pour vous offrir des conseils lecture pour vos vacances et pour vous aider à choisir le bon livre à glisser dans votre sac de plage. Stéphane Place a dû faire des choix. Il est bon, bien sûr. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Victor, bonsoir à tous.
L'autostop comme mode de voyage, c'est aussi ce qui nourrit ce roman de Sylvain Prudhomme intitulé « Par les routes ».
Des retrouvailles à l'aube de la quarantaine. Deux amis qui s'étaient perdus de vue renouent 20 ans plus tard et leurs chemins ont divergé. Sacha d'abord, célibataire, il a décidé de quitter Paris pour entamer une nouvelle phase de son existence. Il rêve d'écrire un livre qui viendrait d'un coup, d'une fulgurance qui soudain serait là. Dans un village du sud-est, il retrouve son copain de jeunesse, l'autostoppeur, et lui continue de voyager comme ils le faisaient ensemble autrefois, au gré de ses envies, en tendant le pouce au bord des routes. Lui n'a pas renoncé à ses voyages improvisés, alors qu'il vit avec Marie et qu'il est devenu père. par les routes est le titre de ce livre que vous conseille Sylvie Latour, libraire chez Mola.
D'abord, je trouve que c'est un livre d'actualité parce que cet été, on va se retrouver en France tous. Là. Et ce livre-là parle de ça, du voyage en France. C'est l'histoire d'un jeune gars qui va retrouver presque par hasard son ami de jeunesse avec qui il a fait les 400 coups et surtout avec qui il a beaucoup baroudé par le monde. Et d'ailleurs, ce type, il n'a pas de nom, il n'a pas de prénom, il s'appelle l'autostoppeur parce qu'en fait, ils sont partis comme ça pendant toute leur jeunesse sur les routes en stop. L'autostoppeur, il s'est casé, il a une femme, il a un gosse. Mais il a continué à faire ce qu'il aime le plus finalement, c'est du stop. Partir comme ça sur un coup de tête avec son sac et surtout en stop pour la rencontre avec l'autre. Où est-ce que la liberté commence ? Sa femme, elle est très ouverte, elle est tout à fait prête à le laisser partir comme ça quand il en a envie. Mais quand même, au bout des choses, finalement, elle commence à trouver le temps long. C'est ça le sujet de la liberté. Et puis la question, c'est aussi, est-ce que l'amour peut durer dans ces conditions-là ?
Une écriture simple, mais des interrogations profondes. Ce texte que signe Sylvain Prudhomme pose des questions qui nous assaillent tous à l'heure des bilans.
Les deux postulations, c'est des postulations qu'on a un peu en chacun de nous. L'envie de voyage, l'envie de disponibilité à l'infini des possibles et en même temps l'envie d'approfondir au contraire ce avec quoi on fait déjà sa vie. Et ben, c'est très important pour moi qu'on sente la beauté de ces deux voies. C'est pas l'autostoppeur qui a raison. Enfin, il y a des moments où je voulais absolument qu'on se dise « Ah, c'est lui quand même qui vit la vie pleinement. » Il y a toute une vie qu'on sent bien qu'il est en train de vivre qui est très désirable. Et en même temps, il y a plein de moments où je voulais qu'on se dise « Mais peut-être qu'il rate le... » En fait, c'est pas là l'endroit où il faut être. Il faudrait être Sacha, celui qui sait être là. Donc on sent bien la force aussi d'être là. C'est pas forcément moins libre d'être là.
Par les routes, c'est une histoire d'amitié et une introspection qui nous touche parce qu'elle vient souligner les doutes, les incertitudes, les contradictions qui surgissent souvent dans cette période particulière autour de 40 ans quand on réalise que l'on a déjà parcouru la moitié du chemin.
Merci Stéphane Place et on rappelle le titre de ce roman. Par les routes de Sylvain Prudhomme, c'est aux éditions Gallimard. Et cette chronique avec la librairie Mola à Bordeaux, vous la retrouvez tous les jours sur Europe 1. Rendez-vous donc demain pour une autre découverte. Autre rendez-vous estival sur Europe 1, la bonne idée. Tous les soirs, avec vous Thierry Dagiral, nous tirons un coup de chapeau à une initiative, à ceux qui, après cette terrible crise sanitaire et économique, se mobilisent et innovent.
Bonsoir Bénédicte Longchal.
Bonsoir.
Vous voulez créer l'application et le guide du zéro déchet téléchargeable sur le site Green et Local. C'est quoi le but de cette application ?
Alors le but de l'application, c'est vraiment d'inciter les gens à consommer exclusivement localement.
Oui.
Donc l'application,
c'est bien, c'est
elle référence. Oui, tout à fait. C'est dans la tendance complètement.
Parfait.
Donc l'application, elle référence et elle géolocalise en fait les acteurs engagés dans une démarche éco-responsable dans tous les domaines et sur toute la France.
C'est ça, c'est dans toute la France. Pour l'instant, il y a combien de références ? Vous couvrez
là,
vraiment l'ensemble de la France ?
Oui. Là, on est à 1300 et on est en ligne. Elle est téléchargeable depuis une quinzaine de jours.
D'accord. Et ça fait 15 jours, c'est ça que vous avez ouvert, hein ?
Oui. Ouais. Oui, tout à fait.
Vous le disiez, dans quel domaine, dans quel secteur vous êtes ? Vos propositions vont dans quel secteur ?
Alors, on a des propositions dans tous les domaines. Ça veut dire que ça va du tourisme, l'alimentation, évidemment, la restauration, mais aussi la mode, la santé, le bien-être, tout ce qui est autour de la maison et du jardin, et tout ce qui est autour des initiatives citoyennes.
D'accord, très bien.
Vraiment, c'est pour que toute la vie, toute notre vie soit éco-responsable.
Et Bénédicte, racontez-nous comment ça marche concrètement, en fait.
Alors, vous téléchargez l'application. Déjà, pour les utilisateurs, on télécharge l'application, on se géolocalise. Et puis, à partir de là, on va voir, il y a les catégories qui sont en haut de l'écran avec la carte qui est centrée.
Ouais.
Et puis, si par exemple, pour l'instant, c'est catégorie par catégorie, parce qu'évidemment, on va faire évoluer l'application au fur et à mesure.
D'accord.
Donc, si vous cherchez, on va dire, un producteur dans le secteur de l'alimentation. Mmh. Et puis là, vous allez avoir des fiches en bas de l'écran.
D'accord.
De la plus proche à, on va dire, je crois qu'on a mis à peu près 25 km autour de vous.
Mmh.
Voilà, mais après, parfait. Vous avez aussi un moteur de recherche.
Eh bien, il faut aller voir maintenant concrètement comment ça marche.
Voilà.
L'application s'appelle Green et Local et c'est donc à télécharger partout en France. Grand merci à vous, Bénédicte.
Merci
Longchal.
Infiniment.
Merci beaucoup.
La bonne idée tous les jours sur Europe 1 avec Thierry Dagiral. Et dans un instant, on jettera un œil sur les unes de vos quotidiens demain matin. Mais on va d'abord marquer une petite pause musicale pour vous ce soir. Un extrait du prochain album de Carla Bruni qui sortira à l'automne prochain. 18 ans après son tube « Quelqu'un m'a dit », voici ce nouveau titre intitulé « Quelque chose ». Merci d'écouter Europe 1. Voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Une aide-soignante qui tend un verre d'eau à une personne âgée dans un EHPAD à la une de Ouest-France. Les pensionnaires des maisons de retraite vont devoir affronter le coronavirus et les fortes chaleurs dans les prochains jours. Le thermomètre va grimper jusqu'à 40 degrés dans certains départements. Le quotidien de l'Ouest explique à ses lecteurs comment les EHPAD se préparent tout en respectant le protocole sanitaire. Le coronavirus, justement, à la une du Dauphiné libéré, avec la multiplication du nombre de personnes contaminées ces derniers jours. Le quotidien fait le point département par département sur le taux de positivité au Covid-19 et les mesures que pourraient prendre certaines collectivités dans les prochains jours. À la une des Échos, un doute, et si l'épargne française pouvait menacer la reprise économique? Avec la crise, les ménages sont plus inquiets et donc plus enclins à épargner. Un scénario que redoute Bercy. Dossier complet dans votre quotidien Les Échos demain matin. Un gros plan sur un policier et sa matraque à la une de Libération. Le quotidien publie demain matin une enquête sur le racisme dans la police et sur la loi du silence qui règne dans les rangs des forces de l'ordre. Enfin, un astronaute sur un sol rouge qu'on aperçoit dans le hublot d'une fusée à la une du journal La Croix. Avec ce titre, Objectif Mars, le journal nous explique comment la planète rouge est devenue un enjeu international ces dernières années. Une mission américaine doit décoller demain, direction Mars, et c'est déjà le troisième départ en quelques jours après les missions envoyées par la Chine et les Émirats Arabes Unis. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouverez demain dans vos kiosques.